Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Il y a dans la vie de Marie Curie un tel nombre de grands traits que l'on voudrait conter son histoire comme une légende. Elle est femme, elle appartient à une nation opprimée, elle est pauvre, elle est belle. Par l'effort le plus acharné et le plus aride, Marie et Pierre Curie découvrent un corps magique, le radium. Leur découverte ne donne pas seulement naissance à une nouvelle science et à une nouvelle philosophie, elle apporte aux hommes le moyen de soigner une maladie affreuse. Cette maladie, c'est le cancer. Et ces lignes, elles sont écrites par l'une des filles de Marie Curie, Ève, quelques années seulement après la mort de sa mère. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée tous les ans le 8 mars, nous nous penchons donc sur Marie Curie, première femme à avoir dirigé un laboratoire universitaire en France, première femme professeure à la Sorbonne, première et seule femme jusqu'à ce jour à avoir décroché 2 prix Nobel pour des travaux scientifiques. Et en seconde partie, il sera aussi question de femmes, celles qui se battent en Irlande du Nord pour que l'avortement y soit libéralisé. C'est Constance Duncotzé au micro. Guten Tag, bonjour à tous.
Bonjour, je m'appelle Renaud Huyn et je suis conservateur du musée Curie à Paris. Nous sommes au cœur de l'Institut Curie à Paris, à 2 pas du Panthéon, à l'Institut du Radium plus précisément, dans le laboratoire où Marie Curie a mené 20 années de recherche scientifique.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la pièce dans laquelle on est, donc le bureau de Marie Curie ?
Alors c'est un beau bureau, vous remarquerez très vite un parquet de bois qui ne se fait plus du tout dans les institutions scientifiques, un très beau bureau en chêne, alors j'insiste parce que c'est une belle pièce et il faut s'imaginer qu'à l'époque c'était une femme qui dirigeait ce laboratoire, ce qui était assez exceptionnel. Et sur son bureau, on y trouve les objets d'usage, une lampe, un vieux téléphone. Et on voit
la future Marie Curie est née le 7 novembre 1867 sous le nom de Maria Słodowska. C'est la dernière d'une famille de 5 enfants, une famille d'enseignants. Très jeune, elle est frappée par le deuil. L'une de ses sœurs puis sa mère meurent coup sur coup alors qu'elle n'a pas 12 ans. Marie grandit à Varsovie, dans le royaume de Pologne, qui était à l'époque une province de l'Empire russe. Malgré une scolarité brillante, elle se voit refuser l'accès à l'université de Varsovie, interdite aux femmes. Alors en 1891, Marie se rend à Paris, où elle entreprend des études en sciences physiques et en mathématiques. À l'université de la Sorbonne, les cursus, même scientifiques, sont accessibles à tous. Tant mieux, cela traduit davantage la conviction de la jeune fille. On n'étudie pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi et même surtout pour s'accomplir personnellement, même s'il faut pour cela quitter les siens et sa chère Pologne. Toute sa vie, Marie Curie gardera un attachement profond pour son pays d'origine. Début 1894, elle rencontre néanmoins un homme, un scientifique, qui va bouleverser sa vie et finalement la convaincre de rester. Pierre Curie. En l'épousant, en juillet 1895, elle devient française et bientôt célèbre.
Pierre et Marie Curie vont découvrir de nouveaux éléments chimiques auxquels ils vont donner le nom tout d'abord de polonium, c'était un hommage au pays d'origine de Marie Curie, et puis enfin le radium, qui est un élément chimique qui va être très utilisé notamment pour développer la radiothérapie.
Et ce sont donc ces deux découvertes majeures qui ont permis à Pierre et Marie Curie d'accéder à la célébrité.
Pierre et Marie Curie vont partager avec Henri Becquerel, qui était aussi à l'origine de cette découverte, le premier prix Nobel français en 1903 pour avoir découvert ce phénomène de radioactivité naturelle. Quelques années plus tard, en 1911, Marie Curie obtiendra un second prix Nobel, cette fois-ci de chimie, pour avoir réussi cet exploit de purifier du radium à partir de plusieurs tonnes de minerais. Malheureusement, pour ce second prix Nobel, elle était seule, puisqu'entre-temps, en 1906, Pierre Curie est victime d'un accident de circulation, et c'est Marie Curie qui va reprendre seule l'œuvre scientifique qu'ils avaient initiée tous les deux.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la Marie Curie, le personnage ?
Marie Curie, on la qualifie souvent de la femme en noir. Donc on pourrait penser qu'elle portait le deuil tout au long de sa vie, qu'elle était d'une tristesse infinie, mais derrière la scientifique, il y avait effectivement une femme normale. Et ça renvoie à cette image que même les scientifiques sont des humains.
Marie Curie ne se sacrifie pas pour la science. Elle exerce son métier avec une immense passion, tout en étant femme et mère. Elle s'engage aussi sur le front de la Première Guerre mondiale avant de reprendre la direction du laboratoire de physique et de chimie de l'Institut du Radium. En quelques années, ce dernier devient en France l'un des plus grands centres de recherche sur les rayonnements et leur application médicale, notamment dans la recherche contre le cancer. cancer. Des étudiants et des étudiantes du monde entier viennent ici pour parfaire leur savoir. C'est le cas de M. Saniel Levici, un Roumain qui se souvient ici de sa première rencontre avec Mme Curie.
Lorsque vous avez vu Marie Curie, c'était où ?
Ici, ici même, dans ce bureau où nous nous trouvons.
Où était-elle ?
Eh bien, elle était devant sa table et moi je me suis assis devant elle et elle m'a interviewé. C'était sa façon d'essayer de voir ce que les gens qui se présentaient à elle avaient dans le ventre.
Ce qu'on montre à l'entrée du bureau de Marie Curie, à travers la liste du personnel du laboratoire dans les années 1927-1928, c'est la grande diversité de parcours. Et puis une autre remarque, c'est de voir la quantité de femmes qui sont représentées dans cette liste du personnel, c'est-à-dire que Marie Curie ne distinguait pas un dossier scientifique s'il était porté par un homme ou une femme. Ça n'avait aucune validité, c'était simplement la qualité des travaux et la lettre de recommandation qui faisait qu'on acceptait ou pas une candidature.
Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'elle était féministe ?
On ne peut pas réellement dire que Marie Curie était féministe au sens actuel du terme, mais je crois qu'elle était vraiment consciente du rôle qu'elle pouvait jouer pour permettre aux femmes de se dire finalement c'est aussi possible pour moi.
Malade, Marie Curie tire sa révérence le 4 juillet 1934 dans l'intimité, sans journaliste, sans photographe, sans grand discours. Et ce n'est que des années plus tard, en 1995, que ses restes et ceux de son mari, Pierre, seront transférés au Panthéon, ce monument en plein cœur de Paris qui honore les grands personnages ayant marqué l'histoire de France. Merci à Renaud Huyn de nous avoir ouvert les portes du musée Curie. Vous retrouverez le lien vers le musée avec plein d'informations intéressantes sur la page de cette émission, rubrique médiathèque, dw.com/français. Vous écoutez la Deutsche Welle, on prend la direction de l'Irlande du Nord qui compose avec la Grande-Bretagne le Royaume-Uni. Mais contrairement à la Grande-Bretagne justement où l'avortement est légal depuis 1967, l'Irlande du Nord a adopté en la matière une législation extrêmement stricte. Depuis 5 ans, les manifestations pour retrouver le droit au choix s'invitent régulièrement dans les campagnes électorales. De plus en plus de voix réclament au moins l'assouplissement de la législation, mais la puissante Église catholique nord-irlandaise s'oppose toujours à cette évolution. Le reportage de Mélissa Chemam.
Pour pouvoir pratiquer un avortement dans un centre de soins, une femme nord-irlandaise doit se rendre en Grande-Bretagne. Un voyage cher et souvent traumatisant, surtout pour les plus pauvres. Un aller-retour pour Manchester ou Liverpool peut coûter 300 livres sterling et l'opération elle-même 600 livres. Amnesty International a lancé une campagne mondiale il y a 5 ans, intitulée « My Body, My Rights »,« Mon corps, mes droits ». Le but est de sensibiliser aux droits des femmes à l'avortement dans les pays où celui-ci est très restreint, et l'Irlande du Nord est un des derniers cas en Europe. Adrienne Pelt est l'une de leurs représentantes à Belfast. Selon elle, c'est l'histoire récente du pays qui est responsable de ce blocage.
L'Irlande du Nord est dans une situation de post-conflit et depuis l'accord du Vendredi Saint, la priorité a été donnée au maintien de la paix. Donc les questions sociales ont été oubliées. Les droits des femmes et des homosexuels sont restés au second plan, même si des progrès ont été faits. C'est malheureux, car Amnesty ne le dira jamais assez, les droits des femmes sont cruciaux pour le processus de paix et on ne peut pas pérenniser la paix sans les droits des femmes. Without
women's rights. Le blocage vient aussi de la situation politique. Le gouvernement nord-irlandais est resté très conservateur depuis l'accord de paix. Les militants impliqués dans la lutte pour le droit à l'avortement ont donc peu d'espoir de faire changer la loi par les députés. L'une des méthodes qui leur reste sont les procès en cours. Plusieurs femmes ont été jugées dans le pays après avoir été dénoncées pour s'être faites avorter. 50 ont été poursuivies ces dernières années. Et plus récemment, certaines femmes ont porté plainte contre les services de santé pour leur refuser un droit protégé par les normes britanniques comme européennes. La Cour suprême de Londres pourrait ainsi avoir à répondre de certains cas, comme celui de Sarah Ewart, devenu le visage de ce combat depuis 2015.
Nous avons travaillé avec Sarah Ewart car elle a accepté de parler publiquement et de manière très émouvante de sa grossesse. Elle a été diagnostiquée avec une anormalité fœtale. Son bébé n'aurait pas survécu, mais les médecins n'avaient pas le droit de pratiquer un avortement, même dans son cas, et ils lui ont conseillé de se rendre en Angleterre. Elle y est allée et à son retour, elle a eu le courage de parler de son expérience.
And came back and very bravely spoke about her experience. Mais parce que le voyage est une option compliquée, la plupart des Nord-Irlandaises commandent en ligne des médicaments pour pratiquer elles-mêmes l'avortement, comme l'explique Kelly O'Dowd du mouvement Alliance for Choice.
On peut commander des médicaments en ligne via les sites Women on Web ou Women Help Women. Ces pilules coûtent 70 livres et permettent de pratiquer la procédure chez soi au lieu de payer près de 1000 livres et de faire face aux difficultés pratiques et émotionnelles du voyage. Donc pour les femmes et surtout pour les plus pauvres, il n'y a pas d'hésitation. Même si c'est illégal, elles commandent ces médicaments en ligne. Elles risquent d'être poursuivies en justice, mais ont-elles vraiment le choix ?
Mais si l'avortement se passe mal et qu'elles se rendent aux urgences, elles sont souvent harcelées par les militants anti-choice. La femme que nous allons entendre a rejoint le réseau féministe Belfast, mais ne parle de son avortement qu'anonymement. Elle déplore surtout les groupes qui tentent de diviser les féministes.
Cela a créé un dialogue un peu malsain dans la sphère publique, entre le concept de bon avortement et de mauvais avortement. Certains militants ne soutiennent que les femmes dont les fœtus sont anormaux et qui ne pourraient pas aller jusqu'au terme, ce qui est une situation horrible, bien évidemment. Mais il existe d'autres situations pour d'autres femmes qui ont d'autres raisons de ne pas vouloir être enceintes. Si elles subissent des violences de leur conjoint, par exemple, ou si elles vivent dans la pauvreté. Peu importe les circonstances, nous ne pouvons pas créer cette division entre bons et mauvais avortements.
En 2016, seulement 14 avortements légaux ont été pratiqués en Irlande du Nord. En Grande-Bretagne, le mouvement de ces femmes est soutenu par de nombreux médecins, membres de la British Medical Association, le syndicat public des praticiens hospitaliers. Ils espèrent obtenir un changement de législation prochainement, surtout que selon un récent sondage d'Amnesty, 72% des Nord-Irlandais sont en faveur d'un changement de la loi.
Droit d'avorter, droit contesté en Irlande du Nord, un reportage de Mélissa Chemam que vous retrouverez également sur notre site internet. Et si vous voulez réagir à ce magazine, vous pouvez nous envoyer un mail à français@dw.com. Bonne semaine à toutes et à tous, à la prochaine et tchuss. Rooted to the spot in future-proof, Robert put sign. Need to see you sweat and work hard. What are you waiting for? Where are you aiming to run? It's time to play.